une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, bienvenue dans une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, nous allons revenir avec la rédaction sur 7 jours d'information, un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est journaliste, reporter au Maghreb Moyen-Orient pour le site français d'information en ligne Mediapart. Bonjour Pierre Puchot.
Bonjour.
Votre actualité est la parution du livre Les frères musulmans et le pouvoir, publié chez Galad Éditions. C'est un ouvrage collectif que vous avez coordonné. On y retrouve les contributions d'une nouvelle génération de chercheurs et de spécialistes de cette région. On peut citer Marie Van Etzel, Stéphane Lacroix, Myriam Benrad, Mahmoud El Hachmaoui ou encore Romain Caillet. Quelle est la trame générale de cet ouvrage ?
L'idée, en fait, c'est de décrire ce moment un peu particulier qui est donc suite au printemps arabe dans un certain nombre de pays. La confrontation, en fait, des frères musulmans, de l'ensemble des organisations qu'on peut associer plus ou moins avec les frères musulmans, avec le pouvoir. Dans un pays comme le Yémen, par exemple, ils ont pris un ou deux ministères, Al-Islah, le mouvement s'appelle Al-Islah, là-bas. En Tunisie, ils ont été au pouvoir, ils ont géré le pays pendant 2 ans. En Égypte, ils ont été au pouvoir également, élus démocratiquement jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'état d'Abdel Fattah Sissi à l'été 2013 et qu'il soit chassé comme ça du pouvoir pour chasser et aujourd'hui interdit et pour la plupart des militants de l'ancienne garde, de l'ancienne direction, condamné à mort.
Et donc dans ce livre, on va lire pour chaque pays comment ces groupes issus des frères musulmans ont évolué.
C'est ça, et par ce biais-là, essayer de comprendre les transformations globales de ces pays, donc du Maroc jusqu'au Yémen, dans la période 2011-2014.
Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Dans quelques instants, nous parlerons du Danemark et de la Libye. Avant cela, ces mots de Marc Séné, le maire de la commune de Sarre-Union, une petite cité de 3000 habitants de l'Est de la France, aux confins de la Moselle et de l'Alsace, marquée dimanche par la profanation de son cimetière juif.
Nous pensons que plus de 200 tombes ont été cassées, détruites, saccagées. Il y a des tombes anciennes, il y a des tombes beaucoup plus récentes, des tombes de personnes que je connaissais bien. Donc c'est d'autant plus abominable ce qui est arrivé, c'est un acte odieux. S'en prendre à ces lieux de mémoire que représentent les cimetières, je ne l'arrive pas à comprendre pourquoi on peut s'acharner de telle manière sur des tombes.
Une semaine d'actualité.
Après la France, il y a un peu plus d'un mois, le Danemark a été la cible d'attaques terroristes le week-end dernier. 2 fusillades ont eu lieu dans la capitale Copenhague. La première a ciblé le centre culturel de la ville où se tenait un débat sur la liberté d'expression. La seconde visait une synagogue. Ces attaques, similaires à celles de Paris début janvier, ont fait 2 morts et 5 blessés. La traque qui s'en est suivie a débouché sur l'identification de l'auteur présumé, qui a été abattu finalement dimanche matin. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans, Omar El-Sain, né au Danemark. Sami Boukhalifa était l'envoyé spécial de RFI à Copenhague.
Omar El-Hussein a été tué de plusieurs balles. La fusillade entre les forces de l'ordre et cet assaillant a eu lieu dimanche à l'aube dans le quartier de Nørrebro, près de la gare de Copenhague. Après avoir été traqué durant plusieurs heures dans la nuit de samedi à dimanche, il a fini par être neutralisé, lui qui était déjà fiché par les services de renseignement. Omar El-Hussein, jeune Danois de 22 ans, était il y a 2-3 semaines à peine derrière les barreaux. Il purgeait une peine de prison pour avoir poignardé un homme en pleine rue. Les faits remontent à 2013. Les autorités danoises pensent qu'Omar El-Hussein aurait agi seul. Il voulait imiter les attentats de Paris. Il y a clairement en tout cas des similitudes entre ces actes terroristes qui ont ensanglanté la France puis le Danemark. Omar El-Hussein s'est d'abord attaqué à un symbole, celui de la liberté d'expression, puis à la communauté juive. Après le choc, désormais c'est l'enquête. 2 interpellations, voire plus, ont été effectuées. Un cybercafé et des appartements ont été perquisitionné dimanche soir, non loin de l'endroit où le tireur présumé a été abattu. Mais impossible pour l'instant d'établir le moindre lien. Peut-être s'agit-il d'éventuels complices.
Dépêché sur les lieux des attentats par le gouvernement français, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a estimé que c'était l'Europe qui était en danger et qu'elle devait multiplier les coopérations entre États. Propos rapportés par Stéphane Lagarde.
Après les mots de réconfort à l'adresse du peuple danois, les mesures pour tenter de prévenir de nouvelles attaques djihadistes en Europe. Un peu plus d'un mois après la tuerie de Charlie Hebdo, les mêmes options reviennent sur la table. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, demande à ce que soit établie la traçabilité du parcours des combattants étrangers, un renfort de la sécurité dans les aéroports au moyen du PNR, le Passenger Name Record, l'enregistrement du nom du passager, déjà évoqué dans un texte adopté lors du sommet informel de Bruxelles il y a 3 jours, et pour l'instant bloqué au Parlement pour des questions de respect de la vie privée. Autre élément important, la coopération entre services de renseignement qui doit être intensifiée selon Bernard Cazeneuve. Les attentats de Copenhague devraient également permettre un renforcement des contrôles systématiques aux frontières, sachant que tous les membres se sont déjà mis d'accord sur un élargissement des contrôles de passagers via des systèmes informatisés. Enfin, la lutte contre la propagande islamiste doit elle aussi faire l'objet d'actions concertées. Cette propagande a pu inspirer l'assaillant présumé de Copenhague, ont fait savoir les services danois.
Ajoutons que plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de la capitale danoise en signe de solidarité. Pierre Puchot, on est frappé par le mimétisme de ces attentats du Danemark avec ceux de Paris en janvier, dans la forme et aussi dans les cibles, et jusque dans leurs auteurs, généralement de petits malfrats.
Oui, alors bon, là, le lien est quand même moins évident avec ce qui s'est passé pour les attentats de Paris, puisqu'il y avait ces revendications, État islamique d'un côté, Al-Qaïda dans la péninsule arabique de l'autre pour les deux groupes, pour Koulibaly d'un côté et pour les frères Kouachi de l'autre. Là, visiblement, on n'a pas d'informations aussi précises. Ce qui est sûr, c'est que on est aujourd'hui dans un environnement très compliqué qu'une partie des services européens n'a pas vu venir. Des groupes comme ça qui sont nés grâce à notamment tout ce qui est véhiculé sur Internet, on trouve des véritables cours de djihadisme en ligne, et un État islamique qui a émergé il y a un peu moins d'un an maintenant, qui a été proclamé en juin 2014 sur l'Irak et sur une partie de l'Irak et sur une partie de la Syrie. Cette organisation-là, elle est autoréférente, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que l'idéologue de l'État islamique aujourd'hui, il a 27 ans, il a chassé de son esprit une grande partie des penseurs djihadistes, si j'ose dire, des années 80, 90, des gens comme Abdelah Azam et tout ça, et donc il auto-crée ses propres références, les mécréants sont les gens qu'il décide qu'ils sont mécréants, et on s'éloigne en fait de plus en plus d'une littérature un peu classique, si j'ose dire, de l'islam radical, pour produire comme ça un autoréférent. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe par ricochet aussi chez ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils utilisent une partie du corpus qu'ils lisent de djihadistes, etc., pour se créer leur terrorisme, leur vision de la société. Ça va bien au-delà de leur vision de l'islam, c'est leur vision de la société et donc leur action propre.
Vous voulez dire que dans ces actions, les rapports avec l'islam politique que vous essayez de décrypter dans votre livre sont extrêmement ténus, voire n'existent pas.
Inexistants, il faut le dire. Je pense que tous ces gens-là ont une grande méconnaissance de ce que sont aujourd'hui les organismes, enfin, l'histoire par exemple des frères musulmans, l'organisation des frères musulmans. Il ne faut pas oublier que ces organisations-là, soit les frères musulmans en Irak, les frères musulmans en Syrie, les frères musulmans même en Égypte, hein, au moment de la prise du pouvoir de Mohamed Morsi par les urnes à l'été 2012, ce sont des apostats, des mécréants, et qu'ils sont cibles des djihadistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de collusion possible entre ces deux groupes. Il y a évidemment certaines personnes qui mettent en exergue le fait qu'une partie des penseurs djihadistes comme Abdelah Azam étaient des frères musulmans avant, mais ça n'explique pas tout. C'est pas parce que vous devenez djihadiste alors que vous étiez musulman avant que dans le substrat des frères musulmans, il y a l'idée du djihadisme.
Sept jours dans le monde.
Comment contrer la montée de l'extrémisme violent entre le groupe État islamique, dont nous venons de parler, Boko Haram, les sections d'Al-Qaïda ou encore les Chebabs somaliens? Cette question se pose aujourd'hui à bon nombre d'États dans le monde. 60 d'entre eux ont d'ailleurs répondu à une invitation des États-Unis qui ont organisé pendant 3 jours, cette semaine, un sommet sur le sujet. 3 jours d'échanges sur les moyens de contrer les organisations de plus en plus puissantes. Et un constat, les pays pauvres ou totalitaires sont un terreau fertile pour le terrorisme. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Le constat fait par les intervenants d'où qu'ils viennent est le même. Le recrutement des terroristes s'appuie sur les dysfonctionnements de nos sociétés. Le ministre jordanien des Affaires étrangères sur ce point a rappelé que les victimes les plus nombreuses sont des musulmans. Nasser Judeh a annoncé une prochaine initiative des pays arabes dont la voix est d'après lui peu audible dans la lutte contre les groupes terroristes.
Pendant combien de temps le monde va-t-il laisser ce phénomène prendre de l'ampleur et se répandre de manière incontrôlée? L'extrémisme violent n'est pas sans lien avec ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Palestine, au Yémen, en Libye et ailleurs. Et oui, les conditions économiques sont un terrain fertile pour répandre cette idéologie. Tout est question d'éducation, éducation, éducation.
Certaines voix se sont élevées pour critiquer un sommet qui n'apporte rien de neuf dans la connaissance du phénomène terroriste. La Maison-Blanche répond que des liens se tissent entre les pays pour une bataille de longue haleine qui s'annonce. Une bataille qui, d'après les meilleurs connaisseurs du dossier, sera laissée en héritage à la prochaine génération. Et ce point fait l'unanimité.
Et pour les autorités saoudiennes, la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique passe par Internet. Le ministre saoudien de l'Intérieur, Mohamed bin Nayef, veut se montrer intraitable face aux terroristes et vient de mettre en application des mesures coercitives. Clarence Rodriguez, Riyad.
Ces mesures drastiques visent essentiellement à renforcer la censure sur Internet et les réseaux sociaux de toutes les vidéos d'exécution d'otages publiées par l'organisation de l'État islamique. Ces mesures concernent aussi tous les sujets à caractère politique, religieux, les prises de position de l'opposition ou encore la diffusion d'informations contraires aux valeurs du royaume. Autant dire un champ d'expression réduit à une peau de chagrin. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, mais aussi les téléphones portables font désormais l'objet d'une surveillance et d'un filtrage très strict. La violation de ces dispositions sera punie par 3 ans de prison et la flagellation pour les Saoudiens, l'expulsion pour les résidents étrangers. Quant aux peines d'emprisonnement, elles varient de 3 à 30 ans, les amendes de 2 000 à 600 000 euros. Du côté des internautes, l'heure est plus que jamais à la vigilance, à l'extrême prudence. Les autorités saoudiennes entendent ainsi verrouiller Internet pour mieux protéger le royaume face à la menace de plus en plus forte de l'organisation de l'État islamique. Mais cela suffira-t-il à dissuader les cyberterroristes ?
Une question qui reste en suspens, Pierre Puchot. Cette décision de l'administration saoudienne qui tente de limiter l'usage d'Internet pour officiellement contrer l'État islamique, pourra-t-elle être efficace selon vous ?
C'est un petit peu ridicule. Je pense que on voit bien en fait aujourd'hui qu'il y a tout un ensemble d'États en fait sur la planète qui payent le prix directement des grandes orientations qu'elles ont prises par le passé ou même de la structure même de leur État. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite se forme au début du siècle dernier avec une alliance avec la famille Saoud d'un côté et les oulémas de l'autre, issus du courant wahhabite de l'autre. Ce rigorisme, ce courant incroyablement archaïque en fait de l'islam qui est d'un rigorisme assez important, et le pacte c'est aux oulémas tout ce qui est de l'ordre du religieux, aux Saoud de la politique. Cette alliance des deux fait qu'aujourd'hui par exemple dans le conseil des oulémas saoudiens vous avez des gens, notamment une personne qui est assez proche dans l'idéologie de les idéologues de l'État islamique. Donc d'un côté vous avez cette proximité, de l'autre vous avez l'Arabie Saoudite qui a été déclarée État apostat par Al-Qaïda et par l'État islamique, qui subit depuis bon nombre d'années un certain nombre d'attentats sur son terrain et qui doit donc lutter contre ces forces djihadistes. Les Saoudiens ne financent pas du tout, comme souvent on l'entend, les djihadistes en Syrie. Au contraire, ils financent une partie des salafistes, le Front islamique, qui lutte lui-même contre Jabhat al-Nusra et l'État islamique. Donc, dans cette complexité, il y en a encore une autre, c'est que l'Arabie Saoudite voit depuis toujours les frères musulmans comme une rivalité sur le plan idéologique et une contestation de leur propre légitimité idéologique et religieuse, et donc ils se retrouvent confrontés à faire le choix de lutter contre les frères musulmans, de les déclarer organisation terroriste, d'appuyer le coup d'état d'Abdel Fattah Sissi en 2013, et donc on voit bien la situation un peu impossible. Donc ils essayent un peu un certain nombre de mesures, mais la vérité c'est que entre leur lutte contre les frères musulmans d'un côté et contre les djihadistes de l'autre, il y a une marge qui est vraiment très faible. C'est aujourd'hui le cas de l'Arabie Saoudite et d'autres États comme la France qui aujourd'hui clairement sont leur allié objectif.
Alors parlons brièvement du sommet aux États-Unis à Washington, sommet contre le terrorisme. Est-ce que c'est ce genre d'événement qui peut aider à faire avancer les choses ?
Non, mais moi ce qui me frappe dans cette question du terrorisme, de l'évolution de l'État islamique, c'est qu'on devrait voir au bout d'un moment que ce qui est important aussi et dont on ne parle jamais, surtout après le développement des révolutions arabes et des mouvements révolutionnaires arabes, c'est la diplomatie. Aujourd'hui, un pays comme la France n'a qu'une diplomatie qu'économique. On sous-traite notre diplomatie au Moyen-Orient à l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite nous prend 3 milliards d'armes qu'il va ensuite donner à l'armée libanaise. Ça, c'est à la fin de l'année 2014. Et on vend pour 5 milliards de rafales à l'Égypte. L'Égypte, je rappelle quand même cet État qui, au moment où Abdel Fattah Sissi prend le pouvoir, tue femmes et enfants dans la rue, c'est le massacre de Rabia en août 2013, condamne à mort plusieurs centaines de frères musulmans, éradique les frères musulmans. Et donc, on est dans une dictature qui est comparable à celle de Moubarak, même si les structures sont pas les mêmes, une dictature extrêmement dure. Ils ont commencé par les frères musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont éradiqué toute l'opposition contestataire. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 prisonniers politiques en Égypte. On voit bien que cette politique éradicatrice qui a nourri l'extrémisme depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est ça le cœur en fait de l'extrémisme aujourd'hui, tel que l'État islamique, tel que ACPA, etc. On se fait l'allié objectif de ces États-là, tout en prétendant apporter une réponse contre le terrorisme. On n'est pas loin du ridicule, hein, quand on y pense. En tout cas, il y a un impensé diplomatique très fort. C'est aujourd'hui le principal problème. Je ne sais pas si on a parlé à Washington de diplomatie, je l'espère.
Une semaine d'actualité.
En Ukraine, la tension est toujours très forte dans la région séparatiste russophone du Donbass, malgré les accords de Minsk. Les accrocs au cessez-le-feu sont nombreux, ainsi les combats ont continué autour de la ville de Debaltseve, nœud ferroviaire important entre Donetsk et Lugansk, jusqu'à ce que la ville tombe finalement sous la coupe des séparatistes, comme le rapporte Régis Janté dans son reportage.
Kiev ne cessait de tirer la sonnette d'alarme dès la semaine passée. Les séparatistes pro-russes amassent de l'armement lourd et sophistiqué autour de la poche de Debaltseve, disaient les responsables ukrainiens. Au fil des jours, et notamment dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu à Minsk, jeudi de la semaine passée, l'offensive des rebelles séparatistes n'a fait que monter en puissance. Ce mardi, les forces ukrainiennes ont lâché. À la tombée de la nuit, les rebelles contrôlaient 80% de la ville de Debaltseve. Du coup, ce mercredi matin, ce conducteur de tank pro-russe se montrait sûr de la chute de Debaltseve.
Petit à petit, on avance. C'est calme déjà, retour à la normale. Mais non, je ne dis rien de plus, rien de plus précis.
Pas question d'en dire trop, l'armée rebelle contrôle bien sa communication et d'une façon générale est très organisée. C'est un indice supplémentaire qu'elle est encadrée par des officiers russes et pleine de soldats expérimentés venus de chez le grand frère, se présentant comme des volontaires. Au poste de contrôle de Vouglegirsk, les équipes de tankistes ainsi qu'un groupe de tireurs d'élite se distinguaient ce mercredi par leurs yeux bridés, par leur type asiatique, des hommes venus de Sibérie.
La Grèce a un nouveau président. L'heureux élu est un ancien ministre de l'Intérieur conservateur, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, alors que le Parlement est majoritairement de gauche. Mais en politique, parfois, le pragmatisme prend le pas sur l'idéologie. Pierre Puchaud, le mouvement des frères musulmans, vous l'écrivez dans votre livre, a essaimé dans beaucoup de pays, on l'a dit, beaucoup de pays à majorité musulmane. Votre postulat est pourtant qu'il est loin d'être tentaculaire, alors qu'on pense généralement que c'est un mouvement unique qui s'est bien élargi dans tout le Moyen-Orient. Comment faites-vous ce constat dans votre livre?
Déjà, il faut rappeler que les frères musulmans naissent grâce à un instituteur et non pas un prédicateur. C'est Hassan el-Banna, donc en 1928, qui initie ça. L'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de dire nous sommes colonisés, nous sommes dominés parce que nous nous sommes trop éloignés de l'islam. Ça, c'est pas une idée qu'il a inventée lui, c'est une idée qu'il a reprise 30 années auparavant, 40 années auparavant, qui a émergé à cette époque-là et qu'il reprend à son compte. C'est une idée du coup qu'il souhaite mettre en pratique et qui séduit énormément de monde. Et alors, on a par exemple en Irak un Turkmène et un Kurde qui se disent c'est une bonne idée. Ce sont des étudiants qui se disent nous allons former les frères musulmans en Irak. C'est au début des années 50. On a comme ça un certain nombre d'endroits où ça. Mais aujourd'hui, même si la trame au départ, aujourd'hui nous ne sommes plus sous la colonisation, aujourd'hui les temps ont changé, aujourd'hui il y a un cadre national qui s'est imposé depuis très longtemps à toutes ces organisations, et aujourd'hui parfois ces organisations sont antagonistes. Vous dites aux PJD marocains qui sont issus des frères musulmans, ils vont pas du tout être contents, c'est un parti qui a été digéré par le palais, digéré par la dictature, alors qu'Ennahda par exemple a été deux années au pouvoir et a façonné un petit peu le paysage tunisien aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il y a des contradictions et des différences qui sont assez importantes, on peut pas classer c'est ça, sous une même stratégie, une même orientation politique.
Nous y reviendrons largement dans la deuxième partie. Pierre Puchaud, nous allons marquer une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Nous sommes donc en compagnie de Pierre Puchot, journaliste pour le site d'information en ligne Mediapart, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous avez dirigé « Les frères musulmans et le pouvoir ». C'est un ouvrage collectif publié chez Galade Éditions, consacré donc à l'islam politique porté par cette confrérie. Mais peut-être devrait-on parler des islams politiques, Pierre Puchot.
Oui, c'est-à-dire que alors il y a plusieurs niveaux de si vous voulez, « Les frères musulmans et le pouvoir », c'est un petit peu une provocation. Il faut bien un titre, hein, on va pas faire non plus un chapitre ou tout un texte pour un titre, mais il y a bien l'idée que les frères musulmans, on parle des frères musulmans en Égypte, mais aussi on parle des autres partis qui y sont associés, mais qui ont des cadres très différents, des stratégies très différentes et parfois antagonistes. Un exemple, au moment où l'Arabie Saoudite condamne les frères musulmans et les place sur la liste de l'organisation terroriste et apporte son appui au coup d'État en Égypte contre les frères musulmans, donc égyptiens, les frères musulmans syriens, eux, qui essayent de s'implanter de plus en plus en Syrie, même s'ils ont du mal, font appel à l'Arabie Saoudite pour effectivement avoir un soutien que l'Arabie Saoudite donne au front islamique qui est plutôt de tendance salafiste. Donc on voit bien comme ça les contradictions internes de cette confrérie, qui est peut-être une confrérie en Égypte, mais qui n'est certainement pas une organisation tentaculaire sur l'ensemble du globe. Il n'y a pas d'agenda ni de stratégie concertée entre toutes ces organisations, qui sont par ailleurs dans des circonstances vraiment très difficiles au Yémen, où le fait que les houthistes aient pris Sanaa, la capitale, en septembre, les a obligés à donc sortir du dialogue national qui avait été impulsé après le départ du dictateur et qui se passait plutôt bien. Donc on en a parlé en Égypte après s'être fait massacrer donc par Abdel Fattah Sissi et ses troupes à l'été 2013. Ils sont aujourd'hui
avant le journal.
Voilà, ouais. dans les geôles du pays, ils sont en clandestinité, ils sont dans une situation très difficile. En Syrie, ils essayent de maintenir une présence sur le terrain, notamment à Douma, cette ville qui a recueilli un peu les blessés et les morts de l'attaque chimique de Bachar el-Assad à l'été 2013, cette ville très proche de Damas. Ils sont présents dans cette ville et dans toute la Ghouta orientale, mais en assez petit nombre, hein, c'est plutôt le front islamique qui mène le jeu. Bon, on voit qu'il y a des difficultés un peu partout. Ceux qui s'en sortent bien sont peut-être Ennahda, qui donc
en Tunisie,
qui effectivement après deux années de pouvoir a réussi à sortir par le haut malgré un bilan très très contestable, très très contesté, l'absence de réforme, l'absence de justice traditionnelle. Ils ont réussi à promouvoir cette constitution et à sortir par le haut en laissant le pouvoir. Finalement aujourd'hui ils ont près d'un tiers des députés à l'Assemblée. C'est pas mal pour une organisation qui était en clandestinité toutes les bourdes possibles, et qui était en clandestinité jusqu'en 2011 et qui a un bilan au gouvernement qui est assez médiocre.
Une forme d'islam politique est-il à l'œuvre au Nigeria avec la secte Boko Haram? C'est une question que nous nous poserons dans quelques minutes dans la séquence consacrée à l'Afrique. Avant cela, arrêtons-nous quelques instants en France avec, nous le disions en début d'émission, la profanation de plus de 300 tombes dans un cimetière juif d'une petite commune alsacienne, Sarre-Union. Dès lundi, les auteurs étaient démasqués et ils n'ont pas le profil terroriste. Olivier Vogel, à Strasbourg.
Cinq jeunes de 15 à 17 ans issus de familles alsaciennes et lorraines sans aucun antécédent judiciaire. Le plus jeune est venu se dénoncer hier matin peu après 10 heures à la gendarmerie de Sarre-Union, effrayé par l'ampleur médiatique de l'affaire. Les quatre autres ont été arrêtés dans la foulée. Ils auraient agi sans aucune motivation idéologique. Philippe Vanier, le procureur de la République de Saverne.
En l'état des investigations, on ne connaît pas les motivations de ces adolescents qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et dont on ne connaissait pas jusqu'alors des convictions idéologiques qui pourraient expliquer leur comportement. Ce sont des jeunes qui sont très très choqués de la tournure des événements. Il semble que ces jeunes considéraient le cimetière comme étant abandonné. Ils se seraient rendus compte de ce que certaines des tombes étaient juives au moment de les saccager.
Des déclarations que les enquêteurs sont en train de vérifier et de recouper avec les indices relevés sur les lieux.
Et après investigation, le procureur a finalement décidé de poursuivre les jeunes gens pour délit de profanation de sépulture en raison de la religion. L'acte antisémite semble donc établi. Mardi, c'est un autre cimetière catholique cette fois qui a été profané en Normandie. Des tombes ont été renversées, des croix retournées ou plantées dans le sol à l'envers. Côté politique, le Premier ministre Manuel Valls a engagé la responsabilité de son gouvernement en utilisant l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi Macron pour la croissance et l'activité. La semaine autour de ce texte a été très animée. Le débat virulent s'est donc achevé sans vote par cette décision du chef du gouvernement. Manuel Valls s'en explique.
Je crois que la France a besoin d'autorité. L'autorité évidemment pour lutter contre la menace terroriste, et nous l'avons démontré avec le chef de l'État, avec le gouvernement, mais nous avons aussi besoin d'autorité pour redresser le pays. Et nous ne pouvions pas jouer au dé un texte aussi important que celui présenté par Emmanuel Macron et que les Français plébiscitent.
Dans la foulée, l'opposition de droite a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Motion votée jeudi et rejetée. Le gouvernement Valls n'a donc pas été renversé, mais la politique politicienne semble bel et bien revenue au Parlement, comme nous le rapporte Anissa El-Jabri du service politique.
Manuel Valls, longuement applaudi par un hémicycle plein à craquer, c'était il y a presque un mois après les attentats, presque une éternité. Hier, le Premier ministre s'est exprimé devant des bancs clairsemés, beaucoup de sièges socialistes étaient vides. Le chef du gouvernement avait beau plastronner, répéter « il n'y a pas de majorité de rechange », le patron des députés socialistes prévenait hier « il va falloir vivre après cette motion de censure ». Pas facile avec les crises de nerfs chez les socialistes qui se déchirent, frondeur contre légitimiste avec la crise, tout court avec les partenaires communistes qui ont voté la motion de censure, écologistes en révolte contre la loi Macron, tout ça à un peu plus d'un mois des élections départementales dont la majorité. On s'attend à des résultats calamiteux et de nouveaux règlements de compte internes fin mars. Dans ce climat sous haute tension, quelle marge de manœuvre pour faire voter des réformes? Celle sur le dialogue social, par exemple, prévue avant l'été. Un poids lourd du gouvernement pointe dépité. En fait, ça va être le même cirque.
Pierre Puchaud, que penser des exactions dans les cimetières dont on parlait à l'instant? Est-ce que c'est une perte de repères de la part d'une partie de la jeunesse? Est-ce que des vannes se sont ouvertes, des vannes racistes qui se sont ouvertes?
Je pense que ça fait un certain temps quand même qu'on a ce... Enfin, je pense à Carpentras, parce que ça fait un certain temps. Moi, j'aime bien me rappeler de ce qu'ont pu dire des gens comme Nicolas Sarkozy à une époque sur, finalement, l'histoire enseignée au lycée, finalement, que ce serait pas si important, ou que... ou la réduction de... On est dans ça, en fait. On est dans une société de qui va vers le court-termisme et qui ne pense pas du tout la mémoire. Je rapproche ça de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Aujourd'hui, en Tunisie, on n'a pas du tout la mémoire de la révolution. Je sais bien qu'il n'y a que 4 années qui se sont écoulées, mais justement, on n'a toujours pas de version, par exemple, officielle de ce qui s'est passé le 14 janvier. C'est quelque chose qui me touche un peu personnellement, vu qu'on avait fait beaucoup de révélations sur ce qui s'était passé dans cette journée-là, sur Mediapart. Et donc, on n'a pas du tout de mémoire de cette révolution, ce qui permet à une partie aujourd'hui de l'élite politique en Tunisie de plus ou moins la nier, ou de nier sa portée, ou de moins de dire que bon, c'était un message pas très clair, de dignité, certes, mais finalement, d'oublier un peu, de mettre un peu de côté pour engager une autre type de politique, beaucoup plus axée sur la forme économique libérale, etc. C'est un peu ce phénomène de négation de la mémoire, de l'utilité de la mémoire. Je pense qu'on est dans ce moment-là aujourd'hui, et que c'est un danger réel. Je pense que c'est, réellement, c'est par la connaissance qu'on s'émancipe, et l'histoire fait partie de la connaissance.
Une semaine d'actualité.
L'actualité en Afrique maintenant. Joseph Kabila n'est pas content. Il a décidé de renoncer à tout soutien des Nations Unies dans son offensive armée contre les rebelles Hutus rwandais présents sur son territoire. Le président de la RDC estime que les ambassadeurs étrangers font de l'ingérence et ça l'agace. Léa Lisa Westerhoff.
Les offensives contre les rebelles Hutus rwandais se feront sans le soutien des casques bleus et la République démocratique du Congo ne veut pas d'ingérence dans ses affaires intérieures. Voilà en résumé les deux messages que Joseph Kabila a fait passer aux 18 ambassadeurs convoqués à la présidence hier. Le ton poli mais ferme, à en croire ceux qui étaient sur place, le climat n'était pas au dialogue mais à la mise au point. Pourquoi ? Selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, Joseph Kabila a jugé irrespectueux que la mission de l'ONU au Congo demande le remplacement de deux généraux généraux à la tête de l'opération anti-FDLR. Ni le président ni le gouvernement n'auraient été informés des accusations de violation des droits de l'homme qui pèsent sur ces deux officiers. Du côté de la MONUSCO, aucune réaction officielle hier, même si on précise que l'armée est toujours informée du statut de ses officiers, puisque le tout est lié à un programme d'aide de l'ONU. Résultat, pour certains, le vrai problème est ailleurs. Refuser le soutien de l'ONU pourrait être une façon de ne pas engager de vraies opérations contre les FDLR. L'offensive lancée fin janvier n'a d'ailleurs pas vraiment démarré sur le terrain. Reste que la MONUSCO se retrouve dans une position délicate. Son mandat exige qu'elle neutralise les rebelles hutu-rwandais, mais jusqu'à présent, elle refusait de s'engager seule, sans l'armée congolaise, vu la complexité de l'opération.
21 coptes égyptiens égorgés en Libye par des hommes se réclamant du groupe État islamique. Les images diffusées sur Internet ont provoqué de vives réactions dans le monde arabe et en Afrique du Nord. L'église d'Égypte et la grande mosquée d'Al-Azhar au Caire ont condamné le crime terroriste, tandis que le président Al-Sisi a décrété un deuil national de 7 jours, sélectionné par les terroristes parce qu'ils étaient de confession chrétienne. Ces 21 égyptiens ont été égorgés les uns après les autres sur une plage par des hommes vêtus de noir, provoquant donc la colère du président Abdel Fattah Al-Sisi, qui a répondu en envoyant ses avions bombarder la Libye, comme nous le rapporte Alexandre Bouchanti depuis le Caire.
Les raids contre les positions du groupe État islamique en Libye ont été effectués en coopération avec l'armée libyenne. Des F-16 sont partis d'Égypte avant l'aube et ont bombardé des cibles aux alentours de la ville de Derna, à 250 km à l'ouest de la frontière avec l'Égypte. De leur côté, des MiG-21 libyens ont bombardé des objectifs près de la ville de Benghazi. Les cibles visées étaient des camps du groupe État islamique, des centres d'entraînement, des dépôts d'armes et de munitions. Les domiciles de dirigeants connus de l'État islamique ont aussi été visés par les bombardements. On indique côté libyen que les cibles ont été touchées et détruites. Des responsables militaires libyens ont par ailleurs réclamé une aide en armes et en munitions pour poursuivre les combats terrestres avec éventuellement le soutien tactique de l'armée de l'air égyptienne. Les responsables égyptiens se sont abstenus de tout commentaire sur ce sujet.
Ajoutons que l'Égypte a finalisé son achat d'avions chasseurs Rafale français et d'une frégate. Le contrat a été signé lundi au palais présidentiel d'Héliopolis. Plus tard dans la semaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à New York pour examiner la question d'une possible intervention internationale en Libye. Finalement, cette question n'a même pas été abordée aux grandes dames de l'Égypte. David Thompson.
L'ordre du jour de la réunion du Conseil de sécurité hier soir devait être la question d'une intervention internationale armée pour contrer l'État islamique en Libye, comme le souhaitait l'Égypte. Finalement, cette demande qui faisait suite à la diffusion de la vidéo de décapitation dimanche des 21 coptes égyptiens n'a pas été formulée par le Caire. Aucun projet de résolution n'a non plus été présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Plusieurs pays occidentaux en ont dissuadé l'Égypte, plaidant pour une solution politique en Libye, et ce, même si aucune négociation ne paraît envisageable avec le groupe État islamique qui, au même moment, diffusait sur Internet des photos d'une parade militaire d'une centaine de pick-up armés dans l'ex-bastion kadhafiste de Sirte. Seule demande, formulée par les autorités libyennes reconnues, la fin de l'embargo sur les armes. Demande également soutenue par l'Égypte, assortie d'un blocus naval pour empêcher les milices d'acquérir des armements dans des zones que les autorités légitimes ne contrôlent pas, c'est-à-dire plus de la moitié du pays.
Pierre Puchot, au-delà du meurtre de ses ressortissants, que craint l'Égypte ? Une contagion djihadiste ?
Alors, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on est dans un nouveau temps pour l'Égypte. C'est-à-dire que Abdel Fattah Sisi conçoit le nouveau rôle de l'Égypte, pays 80 millions d'habitants, donc historiquement un rôle important dans la géopolitique régionale, mais qui, sous Moubarak, bon d'abord sous Sadat, puis ensuite sous Moubarak, a perdu ce rôle, est devenu un peu un nain diplomatique en quelque sorte. Abdel Fattah Sisi, lui, a bien compris que pour continuer à garder le soutien de l'Arabie Saoudite, le financement de l'Arabie Saoudite, 12 milliards quand même de dollars sur l'année 2013-2014, pour continuer ce soutien, il doit se faire l'instrument de la politique saoudienne, c'est-à-dire l'éradicateur des frères musulmans, c'est-à-dire l'éradicateur de la frange modérée de l'islam politique, de celle qui veut s'insérer dans la démocratie. Donc c'est ça son rôle, et c'est comme ça qu'il prend les choses. Le problème pour Abdel Fattah Sisi, c'est que tout montre, et notamment l'exemple irakien montre cela aussi, que en éradiquant cette partie de l'islam sunnisme des frères musulmans, on crée des brèches énormes pour le terrorisme et pour le djihadisme. Aujourd'hui, vous avez dans le Sinaï, donc égyptien, un groupe Ansar Bayt al-Maqdis qui a prêté allégeance à l'État islamique. Vous avez aussi dans le Delta du Nil des nouveaux groupes, pas forcément tous djihadistes. Hein. Vous avez un groupe notamment salafiste révolutionnaire qui, lui, essaye de revenir un petit peu aux origines de l'islam, rapprocher comme ça de côté rigoriste islamique avec les idéaux de la révolution. Donc par exemple, eux attaquent la figure de l'État, donc les policiers, mais pas du tout les civils. C'est pas du tout donc on n'est pas du tout dans du djihadisme. Qui eux les civils, ça fait bien longtemps depuis Oussama Ben Laden que tuer les civils ne leur posent pas de problème.
Mais quels sont les rapports entre ces groupes djihadistes et donc l'islam politique ? C'est simplement une filiation, j'allais dire, par défaut, parce qu'on a éradiqué la partie politique, que ces groupes émergent ou alors que philosophiquement ils sont dans la continuité ?
L'exemple, donc il n'y a absolument pas de continuité, il faut bien comprendre ça. L'exemple type pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Égypte et la reproduction et à quel point il y a un impensé dans tout ça qui est grave, car encore une fois, des gens meurent à Paris, des gens meurent en Libye, donc cet impensé, il est vraiment problématique. En 2011, Nouri al-Maliki, premier ministre à l'époque, premier ministre chiite, soutenu par l'Iran, par les États-Unis, donc de facto par l'Arabie Saoudite, condamne à mort le vice-président irakien à la fin de l'année 2011. Ce vice-président irakien, il est issu des frères musulmans. Oui. À ce moment-là, quel signal donne-t-il ? Il donne signal aux sunnites que jamais ils n'auront de place dans l'échiquier politique tant qu'il sera au pouvoir. Le problème, c'est que Nouri al-Maliki, il n'est pas simplement au pouvoir comme ça. Il est au pouvoir soutenu par les plus grandes puissances internationales. Que se disent les sunnites ? Ben, on n'a pas le choix. On doit combattre ce pouvoir. Voilà, certains font le choix donc de se retirer de la vie politique, de se terrer un peu dans leur province d'Al-Anbar. D'autres, c'est pas forcément la majorité, mais c'est beaucoup de gens, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de gens, rejoignent l'État islamique, mais qui ne sont absolument pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau de l'esprit, de la politique, etc. Mais ils se disent, bon, voilà, on n'a plus le choix aujourd'hui, on a en face un homme politique qui nous éradique, on a les États-Unis voilà, qui sont sur cette même ligne, on doit se défendre, l'État islamique c'est la force la plus importante pour nous permettre de nous défendre, on rejoint l'État islamique.
Une semaine d'actualité.
Un sommet extraordinaire à Yaoundé pour lutter contre Boko Haram. Les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont décidé d'allouer 50 milliards de francs CFA en soutien à l'effort de guerre contre Boko Haram. Un sommet qui a par ailleurs scellé les retrouvailles entre les présidents du Cameroun, Paul Biya, et du Tchad, Idriss Déby, sous les yeux du correspondant RFI à Yaoundé, Polycarpe Essomba.
Les retrouvailles à Yaoundé entre Paul Biya et Idriss Déby Itno ont été chaleureuses. Depuis que le président tchadien a décidé d'envoyer des troupes au Cameroun pour combattre Boko Haram, les deux chefs d'État ne s'étaient pas rencontrés. Paul Biya, saisissant le prétexte du sommet, a fait ovationner son homologue.
C'est le lieu pour moi de rendre un hommage fraternel au président Idriss Déby.
Le président tchadien a à nouveau affirmé l'engagement de son pays, arguant du devoir de solidarité.
La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément.
Au final, tous les participants, dont les 6 chefs d'État de la CEMA, ont convenu de l'activation du pacte d'assistance mutuelle qui lie les pays de la sous-région au bénéfice du Cameroun et du Tchad. Activation qui va entraîner en train de mesures devant rendre concret la participation de la CEAC à l'effort de guerre. Mesure phare de ces assises, un fonds d'urgence de 50 milliards de francs CFA à remettre incessamment au Cameroun et au Tchad.
Et au Niger voisin, 160 personnes soupçonnées d'entretenir des relations avec Boko Haram ont été arrêtées dans le sud-est du pays, théâtre de violents affrontements voici 15 jours. Mardi, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a affirmé lors d'un meeting que son pays serait le tombeau de la secte. Récit de cette manifestation populaire avec Moussa Kaka à Niamey.
C'est une véritable marée humaine, près de 100 000 personnes dit-on, qui a marché pour rallier la place de l'Assemblée nationale. Sur plus de 10 km, les Niaméens ont scandé des slogans pour dénoncer la nébuleuse Boko Haram. On pouvait ainsi lire « Notre armée, notre fierté » ou encore « Boko Haram et Haram ». Le Niger a miniaturé dans les rues de Niamey quelques citoyens.
Donc vraiment, nous sommes venus pour soutenir cette autre façon aussi de riposter contre l'envahissement de Boko Haram.
Bon, nous sortons pour soutenir l'armée nigérienne qui est à Diffa, qui est en train de lutter et combattre contre Boko Haram.
Les femmes de Niamey étaient également au rendez-vous. Madame Boulama Echetou Kane.
Je suis venu marcher pour soutenir nos forces de défense et de sécurité, mais le cortège est encore très long et je ne sais pas si cette place-là va nous contenir.
Le clou de la manifestation est l'intervention du président Youssouf Mahamadou en personne. En recevant un mémorandum des forces vives de la nation, il a déclaré, je cite, qu'on n'attaque pas le Niger impunément.
Boko Haram nous a agressés. On n'attaque pas le Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram.
Mobilisation sans précédent également au Burundi à l'occasion de la libération du directeur de la radio publique, Bob Rugurika. Après un mois de prison, il a été accueilli à Bujumbura par des dizaines de milliers de personnes. Pierre Puchot, parlons de Boko Haram. Dans votre ouvrage sur les frères musulmans, vous n'en parlez pas. Est-ce à dire que ce n'est pas un mouvement qui est dans cette mouvance de l'islam politique ou en tout cas à la marge de l'islam politique?
Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les frères musulmans. Mais ça n'a rien à voir non plus avec l'islam politique. On est dans une, comment dire, on est dans du, dans la guerre, on est dans le terrorisme, on est dans une vision, en fait, voilà, l'autoréférencement. On se sert d'un corpus, comme l'État islamique, comme ACPA, on se sert d'un corpus pour justifier, une option politique, une expansion, en fait, une domination sur des populations, qui doivent se soumettre ou alors partir ou alors être tuées même. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est de l'ordre de partis politiques ou d'organisations politiques à référent islamique. On est dans des organisations totalitaires et ça doit être bien compris, ça. C'est que les frères musulmans en eux-mêmes n'ont jamais eu la prétention d'écraser toute une société et de dominer une société sans partage, de conquérir des territoires. On n'est pas du tout dans la même chose. Boko Haram, c'est très différent.
Il n'y a pas de franchise frères musulmans comme il y a une franchise État islamique ou une franchise Al-Qaïda.
À une époque, il y a eu cette expansion, on en parlait tout à l'heure, de gens qui s'inspiraient donc de l'idéologie d'Hassan El-Banna, enfin mise en pratique par Hassan El-Banna, pour effectivement créer... Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Ce sont des organisations qui sont constituées, qui ont fait des choix politiques très très différents. Encore une fois, un exemple, Ennahda a choisi donc de se présenter aux élections, a gagné les élections, a été donc Premier ministre pendant 2 ans et a, c'est une de ses grandes erreurs, marginalisé ses alliés, voire ridiculisé même le président de la République au moment de l'été 2012, au moment de l'extradition du Premier ministre libyen. Ça, c'est une chose, donc une prise de pouvoir comme ça, c'est Al-Isla au Yémen, a choisi au contraire de faire partie du dialogue national, mais jamais de ne prendre le premier ministère ou la présidence, de prendre un ou deux ministères comme ça qu'on lui proposait, mais de ne jamais apparaître comme complètement détenteur du pouvoir. Donc on voit bien, même quand on a des partis qui sont dans un cadre de démocratie naissante, pas vraiment similaire, mais du moins voilà, une démocratie naissante, pas la guerre syrienne, pas la dictature marocaine, on voit bien que les stratégies sont différentes. Il n'y a absolument pas de commune stratégie globale de toutes ces organisations.
Mais par exemple, entre l'AKP en Turquie et les frères musulmans en Égypte, il y a un gouffre, c'est cela que vous dites?
Alors, c'est simplement que les racines sont pas les mêmes. L'AKP en Turquie a justement essayé de s'appuyer sur les frères musulmans égyptiens pour étendre son modèle turc, entre guillemets, du point de vue diplomatique, à la région et être ce que l'Égypte aujourd'hui se rêve, une espèce d'inspirateur global de la région, de phare un peu pour la région, pour le Moyen-Orient. Ça n'a pas marché puisque la politique, bon, déjà les frères musulmans en Égypte ont fait plusieurs erreurs et notamment de s'appuyer un petit peu sur l'armée, ne voyant pas que l'armée allait au contraire les éradiquer par la suite. Et donc la diplomatie turque, en fait, en s'alliant avec les frères musulmans, a été un peu justement à la fin de son modèle, a vu un peu une limite à son modèle. C'est ce qu'on raconte notamment dans l'article, dans le livre, avec un article de Dilek Ankaya.
Un mot du Qatar, puisque le Qatar a longtemps été le protecteur, en tout cas présenté comme tel, des frères musulmans un peu partout dans la région, les frères musulmans, mais aussi d'autres groupes. issu des Frères musulmans. Aujourd'hui, qu'en est-il? On a l'impression qu'il fait machine arrière.
C'est-à-dire que le Qatar a aujourd'hui bien compris que l'Arabie Saoudite à côté prenait très très mal sa politique étrangère, qui avait un peu dépassé cette sorte de soft power avec l'achat du Paris Saint-Germain, des choses comme ça, plus la création d'Al Jazeera, etc. Que le Qatar avait vraiment joué un rôle politique important, qu'il ne faut pas surestimer. L'aide, par exemple, que le Hamas appelait de ses voeux pour sortir du soutien iranien, et au contraire, le Hamas qui disait au Qatar soutenez-nous, soutenez-nous financièrement, elle n'est jamais arrivée au Qatar. L'émir du Qatar a visité la bande de Gaza en 2012, mais c'est à peu près tout. Il y a eu très très peu d'aide concrète, et si aide il y a eu, c'est sur la reconstruction de quelques écoles. Enfin, c'était assez minoritaire. De même, l'aide du Qatar de 4 milliards de dollars donnée à l'Égypte, ce n'était qu'un prêt. Un prêt qui d'ailleurs a été remboursé très vite par les Émirats Arabes Unis à la demande de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, le Qatar a baissé d'intensité de manière considérable parce qu'aussi l'Arabie Saoudite en avait pris ombrage. La succession d'ailleurs au Qatar de l'ancien émir pour le nouveau, son fils, personne n'est capable de dire aujourd'hui, très peu de gens sont capables de dire ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'est une vraie succession assumée par le père, ou est-ce que c'est plutôt une sorte de coup d'état déguisé poussé par l'Arabie Saoudite? C'est tout à fait possible. En tout cas, on est dans un moment où l'Arabie Saoudite est sortie de son rôle attentiste et a un rôle considérable dans la région, pour justement en termes de diplomatie, éradication de l'islam politique, des choses comme ça. Le Qatar aujourd'hui est très clairement devenu un acteur de second plan.
Merci Pierre Puchot, journaliste pour le site français d'information électronique Mediapart.
Merci à vous.
Je renvoie à votre ouvrage, l'ouvrage que vous avez dirigé, qui s'appelle Les Frères musulmans et le pouvoir, aux éditions Galade, ouvrage collectif, je le rappelle. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovinsky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.